Et sur leur titre Viva la Vida, qui serait un plagiat en fait d'un titre qui s'appelle If I Could Fly de Joe Satriani, qui est un guitariste, qui serait sorti en 2004. Et puis Coldplay dit que c'est de la coïncidence, etc., etc.
Donc ils sont innocents.
Pour l'instant, ils semblent être assez innocents. Je l'ai écouté. C'est vrai que la ressemblance.
Ça donne quoi on a de quoi écouter ?
Non, pas celle-là, parce que je n'ai pris des autres qui sont beaucoup plus.
Il est bizarre. Oui.
C'était juste pour faire une transition un peu bizarre.
Vous êtes gentil.
Non, on va parler un peu plus de tubes qui tournent un peu plus sur notre radio, comme par exemple Disco Beach.
Ah, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne.
Sirio est assez.
Alerte.
Est assez alerte avec ses doigts, puis qui nous fait partir les deux CD exactement en même temps.
C'est faut aller au début alors.
Et faut aller exactement au début.
Alors
c'est le 1 et le 2.
D'accord. Ben, voilà.
Quoi, c'est le 1 et le 2 ?
Les deux CD.
Ah, les deux CD en même temps.
Ah, les deux carrément. Ah, d'accord. Il a prévu ça. Alors, on va essayer. Bizarre. Attention, dextérité, on y va. Les deux.
Donc c'est un mix bag.
Pas parti en même temps.
presque en même temps. Ah ouais, c'est un bootleg. Hein.
Bah, ils sont pas partis du tout
ils sont
temps.
Pas en même temps. Hein.
Ah, je vous assure que je suis innocent, j'ai tout mis en même temps. Alors, on recale tout.
Je repousse le
tout. Oui, on recale. Voilà, attention. Moi, j'appuie sur les deux en même temps. Hein.
Voilà.
Vous êtes témoin, j'ai deux doigts. Hein. J'en ai pas plus, mais j'en ai deux. Attention.
Ils sont toujours pas partis en même temps. Mais c'est pas grave.
C'est pas évident. Hein.
Alors, si vous baissez le. Parce que le Disco Beach, on le connaît. Hein, c'est le.
Ah non, je sais pas lequel c'est celui-là.
C'était l'autre. Voilà, ça, c'est le Disco Beach.
Voilà,
et si on écoute en fait l'original.
Ah, y a que ça, d'accord. Ouais.
En fait, on se dit que c'est que la piste son. Et ben en fait, c'est un autre tube qui est sorti une année auparavant de Dallin & Conrad. Ça s'appelle Discotron.
Discotron, bon.
C'est pas réellement une reprise, en fait, c'est simplement Conrad qui était dans la combine du premier qui s'est dit, bah tiens, on va refaire un petit peu d'argent l'année prochaine avec le même tube. On lui met simplement des paroles complètement stupides dessus.
Et c'est
on
bon.
Fait exactement la même chose.
Donc ça, c'est sorti en 2007.
Ça, c'est sorti en 2007. Et puis, le Disco Beach est sorti en 2008, en fait.
Bon, on n'est plus du tout synchro,
on n'est plus du tout synchro, du coup. Pourtant, j'ai bien prévu le truc.
Et donc, c'était essayé, juste une base musicale.
Lui, il avait essayé, ça allait très, très
ça
bien.
Ça allait très, très bien, monsieur, voilà.
J'avance pour voir ce qui se passe au milieu de la chanson d'origine.
Mais il se passe la même chose que...
Rien, en fait.
Rien, c'est toute la chanson comme ça, en fait.
Il n'y a pas de parole, donc,
aucune
sur cette
parole,
chanson d'origine.
Aucune.
C'est qu'un tapis un peu disco, dance.
Exactement.
Que très sympa.
Que très sympa,
ouais, c'est dansable. Ça fait une bonne intro de 3 heures si on a des choses à dire avant de faire partir Disco
Absolument.
Beach.
Et ça avait fonctionné ou pas, ce
en
titre
club, hein, ouais, un petit peu.
En club.
En club, un petit peu, ouais.
D'accord. Et après, il s'est dit, mais il faut que ça passe dans les radios, il faut que je me fasse la thune. Bah, c'est bien
clair
joli.
Que passer ça en radio, c'est un petit peu pauvre. Y a pas
ça n'allait
chose.
Pas.
Voilà, il n'y a rien. Clouc, 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 clouc. Tandis que c'est beau, la bourgeoisie. Ah, il y a quand même une histoire, nous dit-on par SMS avec Disco Beach. Laquelle ?
Laquelle ? On
Est-ce
va
qu'on
en
passe
savoir
un coup de
plus.
Fil ?
Allez, JD, on essaye ?
On peut essayer.
Pour
on
en
peut
savoir
essayer.
Un petit peu
et
plus.
Il reste 3 minutes à Monsieur Pizzaphone pour nous appeler et nous livrer la fameuse pizza Hawaï quand même. Hein.
Oui, on l'attend avec impatience et il a promis qu'il y en aurait une autre aussi. Hein.
Ah ouais, donc il y en aurait deux ?
Oui.
Alors,
attention.
On a peut-être quelqu'un au bout du fil pour en savoir plus sur cette histoire.
Allô,
c'est qui ?
Stéphane.
Stéphane, le DJ Stéphane.
Le
bah
DJ
voilà,
Stéphane
ouais.
D.
Ben voilà.
Un DJ pour nous éclairer. Alors Stéphane D, nous t'écoutons.
Je me suis dit, j'appelle, j'envoie le SMS extra tard.
Oui.
Ils vont pas m'appeler, tu vois. Et puis non.
Ah bah si.
C'est pas comme ça.
Alors apparemment, vous avez pas. Il y a personne qui a écouté les paroles.
De Disco Beach.
Voilà.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'était une histoire de playlist. D'ailleurs, Rio doit connaître un peu l'historique des playlists en France. Avec un certain pourcentage de titres français qui doivent passer.
Oui.
Ouais.
Et puis, bah voilà.
Ah, c'est pour tous les quotas français qu'on ne parle plus anglais, c'est ça que tu veux dire ?
Exactement.
Et oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on va voir les paroles, c'est écrit, c'est pour tous les quotas avec un G, en fait.
Ah.
Et puis, mais en fait, elle dit quota, hein, clair et net. Parce qu'en fait, les radios doivent passer 40% de chansons françaises, dont 20%
c'est
de nouveaux talents.
C'est comme ça en France.
Et
oui,
voilà.
Monsieur.
Et donc, forcément, bah, tous ceux qui chantent. Mais c'est une rafale, c'est étonnant. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que tout le monde contourne cette loi. Il y en a plein qui font le coup, hein. Disco Beach, c'est un exemple, par exemple.
Il y a qui encore ?
Alors, rien que des titres qu'on tourne chez nous, hein.
Oui.
Sur Radio Fribourg. Faut que je les trouve, hein. Parce que c'est pas facile, comme ça, à la dernière seconde.
Allez-y, mon ami.
Oui,
vous êtes un petit peu le roi. Donc, monsieur Stéphane D, vous qui êtes le roi des DJ. Vous le jouiez déjà à l'époque, ce titre en 2007, qui était, c'était quoi l'original, JD, déjà ?
Discotron.
Discotron.
Non, alors.
Tu l'as jamais joué ?
Non.
Mais tu l'avais déjà entendu ?
Oui, je l'avais entendu, oui.
Et pourquoi tu le jouais pas ?
Parce que.
Et puis maintenant, tu joues Disco Beach.
Oui.
Ah bah voilà.
Toi aussi.
Il est tombé dans le panneau.
Toi aussi, tu vois, tu cèdes au commercial.
Oui, mais parce que c'est génial. Il y a tout le monde qui connaît les paroles.
Vous connaissez par exemple Colby Kayat, c'est une Australienne, elle vient de l'autre bout de la planète.
Oui.
Voilà comment elle chante maintenant.
Dis-moi, les mots qui font du bien. Dis-toi, que j'aime ces petites rien.
C'est dommage.
Et autre exemple, Craig David, qui nous a sorti Walking Away il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'il nous fait pour remplir les quotas français?
Pour passer donc sur les radios françaises.
Et il chante Walking Away comme avant. Lui, il sait pas le français, il se foule pas. Hein.
Il reste comme avant.
Par contre, il a trouvé une super copine en France, qui s'appelle Lincha, qui va chanter un petit bout en français juste pour rentrer dans les quotas. Et puis, sachez qu'en Espagne, il y a aussi une copine espagnole qui chante en espagnol.
Qui chante, bien sûr.
Voilà,
il y a un
parce
petit
qu'il
peu
faut
partout.
Bien inonder toute l'Europe.
C'est pour ça que Robbie Williams avait dû chanter sa chanson en français.
Et
aussi.
Regardez la qui vient là, 19h52. Bien joué.
Ça fait plaisir.
Eh ben voilà.
Comment s'appelle notre livreur?
Attends, on va laisser lui trouver un micro.
Marche le micro.
Il va marcher.
C'est le rossignol.
Le rossignol.
Plus rapide que l'éclair, le rossignol.
Exactement, à voile d'oiseau.
À vol d'oiseau. Depuis Hawaï, puisqu'il nous apporte une pizza Hawaï de chez Pizza Phone.
Deux pizzas en plus.
Deux, ouais.
Alors, et qu'est-ce que tu as apporté le rossignol encore?
Une carte fidélité. C'est Pizza Phone 026 322 13 18, livraison gratuite.
Alors, bon, alors Pizza Fun, on va goûter en direct.
Ah oui, on a promis, hein. On le doit, hein.
Bah, là, il nous reste quelques secondes, c'est pas pour dire, hein.
Adieu, donc... Stéphane, on goûte notre pizza.
Eh, hey, bon appétit.
Eh, merci Stéphane, à bientôt, hein.
C'est pour qui?
C'est pour nous.
C'est pour nous tous.
Ah, vous tous, vous partagez.
Ouais.
Ah, ok.
On partage, bien sûr. Mais...
Et donc, Pizza Fun, rappelle le numéro parce qu'on n'a pas compris.
026 322 13 18, livraison gratuite.
Ah, livraison gratuite.
Et ça fait plaisir notre copine.
Oh, elle
toujours
est très,
très contente. Et il est 20h01, là, on est en retard. Donc
non, il faut qu'on goûte cette pizza. Allez, on va goûter la pizza. JD.
J'ai pas de couteau.
Avec tes doigts de fée, vas-y, ouvre la pizza.
C'est un peu coupé.
Allez. Elle est déjà coupée.
Allez, j'ai coupé.
Aïe, aïe, aïe.
Et en plus, il coupe la pizza gratos.
Et à fil ananas.
Mange pour madame.
Alors, rossignol, tu veux une petite.
Non, ça va, j'ai ma pizza gratuite après.
Merci. Toi, t'as pas besoin de faire de pub.
Ah, c'est ça, là.
Ah, voilà.
Ah, Mike, c'est bien.
Ça coupe par hasard.
Efficacité, tu vois.
Dès qu'il y a de la nourriture, Mike est là, Jonathan est là, comme par hasard. C'est du hasard, on les a pas vus toute la soirée, dis donc, ils étaient où tout.
Nous ne sommes pas gros et moches.
Si.
Bah moi je goûte l'autre, voilà.
Bon, très bien.
Ouais,
et le rossignol, tu diras à Alex que c'est un super proprio de pizza.
Le meilleur.
Le meilleur, hein, meilleur, c'est vrai. Hein.
Et la Hawaï, moi je suis spécialiste en Hawaï, elle est classe. Hein.
Elle est super classe, ouais. Honnêtement.
Et il y a pas de champignons pour Rio ?
Non, justement. La pâte est fine. Le jambon est absolument... le fumet du jambon.
Écoute, ça me bave.
L'ananas, il a été cueilli à Hawaï directement, n'est-ce pas le rossignol?
Direct.
Tu vois?
Ouais.
Tu vois
même les morceaux d'ananas qui ont tendance à tomber de la pizza, c'est un défaut de fabrication, c'est un peu dommage.
Tenez
la
Ah oh, bah joie.
Et comment elle s'appelle l'autre pizza?
Celle-là, c'est une diavola, je crois.
Très bon.
C'est la surprise du chef?
Avec salami piquant, un petit peu.
Ouais.
Ah ouais, elle est vraiment classe.
Oh, elle est super. Bon, je m'excuse, mais il y a DJ Buzz qui suit.
Ouais.
Je crois qu'il est pas très content si on dépasse un petit peu tous les timings.
Non, parce qu'on va finir à minuit et demi. Hein,
ah
comme
bah voilà, c'est normal. Et super Pizza Phone, hein.
Ouais.
Vous êtes les vous pros. Laisser. Merci, ouais,
merci
Rossignol.
Merci, hein, livraison gratuite.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça. Les histrions avec Sylvain Grangier.
Au cours de l'histoire fribourgeoise, l'émigration a souvent été une solution de survie pour les personnes de conditions modestes. À la fin du 19e siècle, la Russie s'avère être une bonne destination. C'est le cas pour François-Pierre Bierbaum, artisan joaillier. Pour cet épisode de Pâques, on va parler d'eux. Des œufs, donc.
« Monsieur Fabergé.
Ah, vous êtes le nouvel artisan venu de Suisse. Et quel est votre nom déjà?
François Birbaum.
Vous tombez à point nommé.
Hein?
Nous devons honorer notre commande pour le tsar Alexandre III et la tsarine Maria Fedorovna.
Deux?
Absolument. Et chaque année pour Pâques, nous créons une œuvre pour que le tsar l'offre à la tsarine.
À droit?
Oui, eh bien j'espère que vous l'êtes à droit.
Dans mon cas, très.
Oui, bon, pas de bavardage. Vous vous croyez joyeux? Pouvez-vous me dire quel est ce métal?
Du zinc.
Parfait. Ne voudriez-vous pas en savoir plus sur notre spécialité?
Si.
Vous connaissez-vous en poupée russe?
Quelle est cette.
Alors, curieux?
Oui.
Alors regardez, que voyez-vous?
Un œuf.
Tout à fait. Il est fait d'or et recouvert d'émail blanc. Maintenant, regardez, je l'ouvre.
Oh, dis.
N'est-ce pas? On trouve à l'intérieur un autre œuf.
En bronze?
Non, en or. Et si on l'ouvre encore, on y trouve une poule de platine et d'or avec des yeux rubis.
Quel boulot de 12!
Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez depuis tout à l'heure?
Comment?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est exactement ce que vous avez dit depuis tantôt.
C'est pour vous dire que je suis quelqu'un sur qui on peut compter.
Vous m'en direz tant.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous est venu en premier? L'œuf ou la poule?
Le pognon.
Ah ouais. Et pourquoi des œufs?
C'est une tradition ancestrale de s'offrir des œufs au printemps. Ça symbolise le renouveau.
Ah, et on les peint?
Non, pas de lapin. Bon, mettons-nous au travail.
Hey, j'ai une idée. Et si on mettait du chocolat tout autour, avec l'œuf en or dedans qui garde la surprise?
Mais quel intérêt?
Ben, on pourrait manger l'emballage.
Mais c'est un coup à choper la chiasse.
Ben.
Après, faudrait les rappeler et tout. Non, non, mauvaise idée.
Alors j'en ai une autre. On met des pics tout autour et des portraits du tsarevitch Nicolas.
Mais pourquoi?
Parce que ça fait pic nick au bord de la tsarine.
Mais enfin, ça n'a aucun sens.
Ah ben si, là d'où je viens, en basse ville, c'est très populaire et...
Mais justement, on travaille pas pour la basse. On fait pas du populaire. On est les joailliers officiels de la famille régnante de Russie. Faut pas mettre les œufs dans le même panier.
Ah pardon, je les enlève alors.
Quoi?
Ou alors on fait un œuf horloge et dedans il y a un petit oiseau et puis ça s'ouvre toutes les heures pour faire coucou. Et ça fait fureur là d'où je viens.
Ah, ça c'est une idée. Mais quoi comme oiseau qui fait coucou?
Bah, un coq, bien sûr.
Mais bien sûr. Hé, Fedor!
Ah bah oui, c'est sûr qu'on le fait en or.
Non, j'appelle Fedor l'apprenti. Fedor! Et qu'est-ce qu'il fait?
Il dort.
Sûrement. En attendant, je vous fais premier maître des ateliers Fabergé.
Oh, merci, monsieur, c'est un honneur.
Je sens que vous allez faire des heureux.
François-Pierre Birbaum fut donc premier maître des ateliers de Karl Fabergé, créateur des fameux œufs de luxe. Birbaum participa à la création de plus de la moitié de ses œufs. En tant que joaillier des tsars, il dut retourner en Suisse après la révolution bolchevique d'octobre 1917. Toutes les infos historiques sur l'épisode via le compte Instagram des Histrions ou sur la page Facebook des Histrions.
Radio FR.
Radio Fribourg.
Radio FR.
Radio FR.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Heidi, Heidi.
Heidi, Didi. Hallo, hallo.
Ça marche.
Ah.
Allô, bonsoir.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Je teste un peu le matériel parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une boum hier soir. Alors, on sait ce que c'est. Les boums d'adolescence, ça laisse des dégâts.
Ah, ça fait quelque chose.
Enfin, voilà. Oh. Non, ça a l'air propre, bien nettoyé, hein.
Oui, oui, on a bien nettoyé.
Je vois que les parents sont passés derrière, comme d'hab.
Un petit peu.
Très indulgent.
C'est vrai.
Enfin, voilà. Vous voyez que je suis cool, hein?
Hein? Ouais.
Juste aujourd'hui.
Ça change.
C'est exceptionnel. Non, parce que je suis assez contente de moi aujourd'hui.
Oui.
J'ai enfin trouvé une base commune à la France et à la Suisse.
Ah.
Comme quoi, je suis pas ingrate.
Ah.
Ce point commun, ça concerne les médias. La
oui.
presse écrite, la flemme des journalistes et de certains journaux. Quand même, il faut le dire, il faut le dénoncer. Là, je me mets à l'heure suisse, je dénonce. Tiens, ça grince aussi. Ça, c'est plutôt pour la France. La France, elle est un peu vieille, elle grince, tout ça. Non, vraiment, c'est pas super. Parce que dans presque tous les journaux, on découvre des dépêches ATS. Je m'enlève de cette chaise. Je recommence. 1, 2, 3. On découvre donc des dépêches ATS un petit peu partout dans les journaux, des agences, une agence de presse. On la connaît. Où il n'y a même pas un mot ni une virgule de changé.
Rien.
Mais rien.
Texto,
que ce soit le matin, La Liberté, 24 heures et autres, je ne sais quoi.
Mais c'est des flemmards, ces journalistes.
Même sur le net, en fait, ils reprennent la dépêche ATS.
Mais copier-coller.
Pour mot, c'est du copier-polier.
Polier,
je voulais dire. Voilà, exactement. Par exemple, les 67 millions que l'Ofcom garde sur un compte depuis 2007, un excédent de la redevance.
Oui, par exemple.
Bilag, mon amour. Et que, à cause d'une loi de l'Ofcom, ils ne peuvent pas redistribuer. Et ben, cette dépêche, je l'ai retrouvée mot pour mot, telle qu'elle sortie du four de l'ATS sur mes je ne sais combien de pages internet et journaux.
Mais c'est ça n'empêche pas qu'on comprend quand même rien pourquoi on n'a pas le droit à tous ces millions.
Exactement.
Ça, c'est quand même à dire.
C'est justement où je voulais en venir. On n'y comprend rien, justement parce qu'on n'a pas développé la dépêche. Parce que soit on a la flemme, soit on ne veut pas le faire.
On ne fait pas son travail de journaliste, on n'investigue pas. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, parce que quand même, moi j'ai dû la faire cette investigation. Et c'était dur. Vraiment, c'était dur. C'était un bon après-midi pour comprendre cette espèce d'arnaque de l'Ofcom. Je vous dis pas. Non, mais les gars, quand même, ils auraient pu changer une virgule ou avoir le dictionnaire des synonymes à côté, faire style, tu vois. Non, mais rien du tout, quoi. C'est dommage de copier-coller l'info quand même, parce que ça fait pas avancer notre schmilblick. C'est des infos importantes quand même.
Bah oui.
67 millions bloqués sur un compte de la fédération qu'on peut pas, soi-disant, débloquer. C'est quand même les boules. Il y a des tas d'infos qu'on laisse passer comme ça parce qu'on les comprend pas. Et c'est bien dommage, Tania. Comme celle, par exemple, de l'UMP, parti français qu'on adore ou pas, qui a acheté sur Google le mot perquisition. Vous tapez sur Google le mot perquisition dans le truc de recherche et je vous jure qu'il y a pratiquement que des articles de l'UMP, en fait, qui, après que la police eut perquisitionné dans leurs locaux pour l'affaire Bettencourt, ils ont voulu rétablir un peu l'usage réel du mot perquisition. Dommage,
c'est pour ça qu'ils ont racheté, d'accord, ouais.
Bref, alors on a le droit d'acheter un mot-clé sur Google. Moi, je savais pas, c'est tout à fait légal. Après, on vous amène à l'info qu'on veut vous faire lire. Ça s'appelle de la manipulation. Du coup, pour établir la balance plus ou moins en équilibre et en bonne maquisarde que je suis quand même, j'ai une info pour les gens du voyage qui se font expulser en ce moment. C'est un peu la mode, c'est super in de faire ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu la mode des Sarrasins, des Juifs, des Portugais, des Italiens, des Arabes, des Homos, des Yougoslaves, et maintenant c'est les Roms. Dommage quand même, Eliane. Alors, les gens du voyage, si vous m'écoutez, si vous êtes d'origine bulgare ou roumaine, pourquoi pas, ça peut arriver, et que vous allez ou venez d'être expulsé. Eh bien, il suffit de passer la frontière comme la loi l'exige. Pas de problème, faites-le. Je vous le dis, moi, Boyash, Arabachi, Koka, Rai, Lautari sont les musiciens de Emir Kusturica, par exemple. Les Oursani aussi, les Roudar et autres retards. Passez la frontière, faites-vous expulser, allez-y, partez. Et ensuite, vous retrouvez dans un autre pays, par exemple la Belgique. Mm-hmm. Sortez de France, vous êtes expulsé, pam, vous allez en Belgique. Pas de panique, vous allez manger un moule frite, c'est sympa, c'est bon aussi.
Ils sont drôles, les Belges.
Et puis vous revenez en toute légalité en France. C'est sympa aussi, on peut le faire dans un pays européen de votre choix, ça c'est possible. Donc c'est très bien et vous pouvez y séjourner 3 mois sans bosser. C'est bien comme astuce. Alors allez-y, faites-vous expulser, pas de problème, l'expulsion elle est illégale de toute façon. Ça, on le sait tous. Alors voilà, on va faire ça. On s'en fiche.
Ben oui,
on s'en va et puis on revient.
Puis on reviendra.
En France, dans un pays d'Europe.
Mais oui, par exemple.
En Suisse aussi, pourquoi pas. Oui, bienvenue les Roms.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le timalien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé N'oubliez pas les paroles sur France 2 avec Nagui, qui lit ses fiches à propos des candidats, mais il lui faudrait peut-être des lunettes maintenant à Nagui.
Est-ce que c'est vrai que chaque fois que vous revenez de vacances, vous rapportez avec vous un amant?
Un amant? Ah, un aimant.
Pardon?
Un amant, non.
Ah oui, un aimant. Ah oui, pardon, un aimant. Pardon, un aimant.
Parce que là, il y en aurait beaucoup, là, quand même.
Pas mal. Et je les collectionne, il est dans le placard. Hein. Un aimant. Un magnète, quoi.
J'en ai 30, ça fait du monde à la maison.
Radio FR. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est une autre histoire.
Il est avec nous, comme tous les mardis, notre historien arrive dans nos studios, légèrement vêtu. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike.
Quand je dis légèrement vêtu, correctement vêtu quand même. Hein,
ah, voilà. Oui, quand non, même. Mais c'est l'été Mike, rendez
c'est
compte.
C'est vrai, on est le 21 juin aujourd'hui.
Oh,
hein.
Mais quel beau jour que ça va être, j'imagine.
Et nous parlions la semaine dernière de cet amour qui nous unissait non seulement pour l'histoire, mais également pour la bonne nourriture. Mais je sais également que vous, tout comme moi, nous adorons la musique, même si on n'écoute pas forcément la même musique, mais c'est aussi la fête de la musique aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, on oublie toujours, parce qu'on voit toujours ces groupes pour les jeunes, avec la musique... comment vous appelez cette musique maintenant
Les musiques urbaines, peut-être.
Voilà, voilà, exactement.
Voilà, avec, alors, avec du rap, avec du hip-hop.
Voilà, mais...
Vos enfants écoutent ça, par exemple?
Non, je crois pas.
Vous ne allez jamais fouiller dans leur playlist, perso?
Jamais.
Bon, faut dire qu'Alain Jacques Tornard ne sait pas trop aller fouiller dans la playlist d'un iPhone. Hein,
d'ailleurs,
il sait pas comment ça marche.
Vous allez d'abord m'expliquer, Mike, ce que c'est qu'une playlist. Non, mais oh là là. Ce que j'aime, c'est bien sûr parce qu'il y a la musique classique aussi. Vous savez, moi, je suis un amoureux de la musique classique. Et quand je vois ces jeunes se balader là avec leur violoncelle, c'est quand même assez volumineux pour aller jouer. Puis c'est pas si évident de jouer de la musique, comme on dit, de jeune à l'heure actuelle. C'est plaisant, mais avoir le courage de jouer quand on est jeune de la musique classique, je trouve ça, moi, je trouve ça très émouvant personnellement. Et c'est vrai que quand j'entends un morceau de Saint-Saëns,
qui est toujours votre compositeur préféré, on a parlé du Carnaval des animaux il y a quelques semaines. Hein.
Avec Richard Strauss, c'est
vrai. Avec Richard Strauss. Hein.
Donc, bien forcément, quand j'entends cela, ou de Johannes Brahms, par exemple. D'ailleurs, une fois, tiens, on pourrait faire une émission sur la musique classique.
Écoutez, si vous voulez, je ne sais pas si on aura le temps de passer plein d'extraits en entier, mais plutôt alors des petits morceaux comme ça de musique. On avait déjà écouté un petit peu de Saint-Saëns et on avait fait découvrir des airs que je connaissais au travers de publicité, par exemple, voilà, sans savoir forcément que c'était du Saint-Saëns.
Exactement.
Voilà, donc fête de la musique aujourd'hui, c'est le début de l'été. Et puis un riche programme, hein, comme chaque semaine dans cette émission. Dans C'est une autre histoire aujourd'hui, nous évoquerons tout à l'heure la guerre des Cristeros. Hein, ça nous amènera au Mexique dans les années 1920. C'était une terrible guerre civile à l'époque. On évoquera l'hyperinflation allemande. Ça va nous ramener en 1923 avec un parallèle, évidemment, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, hein, nos prix qui ne cessent d'augmenter. On va commencer tout d'abord par deux noms qui suscitent tous les fantasmes, l'opération Barberousse et l'opération Bagration. Ça va nous ramener en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale d'ici quelques instants sur Radio Fribourg. Restez bien avec nous. Fribourg.
C'est une autre histoire.
Dans la première partie de notre émission du jour, vous avez choisi, Alain-Jacques Tornard, d'évoquer non pas une, mais deux dates anniversaires. Le 22 juin 1941, c'est la Wehrmacht qui envahissait l'URSS. Et puis trois ans plus tard, 22 juin 1944, les forces soviétiques qui lançaient une immense opération visant à libérer la Biélorussie de l'envahisseur allemand. De l'opération Barberousse à l'opération Bagration, vous nous emmenez en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on appelle un retour de bâton quand même des plus spectaculaires.
Oui, on marquait à 3 ans de distance, jour pour jour. Et le 22 juin 1941, visiblement, Staline n'a rien vu venir. Il a d'ailleurs été prévenu. Il y avait un espion au Japon qui l'avait prévenu qu'il y allait avoir même ce jour-là l'attaque.
Il s'est dit peut-être qu'il y a un pacte de non-agression, on risque rien.
Oui, c'est complètement illusionné sur Hitler. Il était sans doute un peu fasciné par le personnage, je ne sais pas. Mais tout à coup, le 22 juin 1941, on est 4h du matin, Staline est réveillé par un coup de fil du général Yukov dans sa datcha qui lui annonce, c'est tout simplement la guerre. Les troupes allemandes viennent de pénétrer en Union soviétique. Fin 1940, vous savez que les alliés, les Français étaient complètement laminés au terme d'une guerre éclair, que l'Angleterre était... pratiquement à genoux, mais pas occupé. Et là, contre toute attente, Hitler n'essaye pas de régler la question anglaise avant toute chose, pour des raisons idéologiques, parce qu'il admire l'Angleterre, c'est les cousins germains. Par contre, il est sans pitié envers Staline et l'Union soviétique, alors que l'Union soviétique, finalement, bon, bien sûr, tôt ou tard, ils en seraient venus aux mains avec les Allemands, mais ne représentaient aucune menace pour les soviétiques continuaient jusqu'au dernier jour à envoyer du blé à russe soviétique ah, ukrainien d'ailleurs en l'occurrence, aux Allemands. Donc il y avait aucune raison à court terme pour envahir ce pays. Il y avait en effet ce pacte non d'agression quand même qui en disait beaucoup. Et donc Staline est totalement incrédule. D'ailleurs il s'enferme pendant plusieurs jours dans sa datcha. Il ne réagit plus. Les Allemands pénètrent profondément dans le territoire soviétique et il faut attendre le 3 juillet 1941 pour qu'il se réveille enfin et qu'il fasse une déclaration officielle où d'ailleurs il n'évoque pas le parti communiste parce qu'il sait qu'il n'est pas très aimé et donc il en appelle à l'Union nationale. Et là, rapidement d'ailleurs, Churchill, qui est pourtant anticommuniste fervent, eh bien fait très rapidement le 16 juillet un pacte, une alliance, un traité avec Staline. Et là, c'est l'erreur. La première erreur des Allemands, c'était d'attaquer l'Union soviétique, il n'y avait pas de raison. Mais surtout, commettre l'erreur alors qu'on les accueillait à bras ouverts en Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens avaient quelques années plus tôt subi des millions de morts, comme on l'a évoqué à une autre émission, par la famine.
Voilà. Donc les Allemands auraient pu être des libérateurs, ils n'ont pas saisi
exactement
l'occasion.
Exactement, ça l'a été pour les Pays-Baltes d'ailleurs à ce moment-là, mais les Ukrainiens, selon les critères nazis, c'est des sous-hommes. Donc on va pas être gentil avec eux alors qu'ils pourraient devenir de précieux auxiliaires, comme les Finlandais ont pu l'être, comme les Roumains au même moment le sont. Et donc, voilà, le résultat des courses, ils échouent devant Moscou, comme je dis toujours, Napoléon a pris Moscou, mais pas Hitler, à 30 kilomètres, ils arrivent à 30 kilomètres, et voilà, ça veut dire qu'ils vont perdre cette guerre. Et
c'est le début de la fin pour Hitler, là-dedans.
Alors, c'est le début de la fin, parce qu'il a Hitler, parallèlement, alors qu'il est à 30 kilomètres de Moscou, il a la mauvaise idée de déclarer la guerre aux États-Unis, parce qu'il y a eu Pearl Harbor entre-temps. Donc, les bêtises sont alignées, là, à tout va. Je vous passe toutes les pérégrinations pendant 3 ans, et on arrive à ce 22 juin 1944, et bien là, c'est un moment très important, parce que vous a pas échappé que quelques semaines avant, les Alliés ont débarqué en Normandie. Mmh, et que les Alliés piétinent en Normandie. Ils ont réussi à mettre pied, mais ils n'ont pas gagné encore à ce moment-là. Ils sont même en passe d'être par moments repoussés par les Allemands. La Wehrmacht arrive quand même à contenir la poussée. Mais sur ce, les Russes, les Soviétiques, eux, lancent une immense offensive. Ce qui veut dire aussi qu'on ne pourra pas distraire des éléments allemands venant de là-bas pour soutenir. Et quand on, c'est ça que j'ai toujours trouvé détestable, quand on a commémoré l'anniversaire du débarquement, on n'a pas invité les Russes, alors que sans cette offensive-là, il n'est pas sûr que les Américains, les Anglo-Américains, en l'occurrence, auraient pu vaincre, en tout cas pas dans le court terme.
Ouais, c'est ce que vous avez souvent cité d'ailleurs dans cette émission, sans vouloir à tout prix prendre la défense des Russes, on a souvent manqué des occasions de faire la paix avec les Russes ou les Soviétiques.
Oui, et là, cette offensive Bagration, du nom d'un général russe du temps de Napoléon, qui avait vaincu Napoléon, donc c'est tout un symbole.
Tout
en 1800.
Barberousse était un symbole.
Voilà, Barberousse aussi, empereur allemand, donc conquérant, et Bagration qui avait vaincu en 1812 les Napoléoniens. Et donc, cette bataille va durer jusqu'au 29 août 1944, donc il va terriblement soulager le front ouest et ils vont se retrouver sur les bords de la Vistule. Et là, d'ailleurs, c'est un autre drame. Officiellement, les Soviétiques étaient un peu essoufflés, donc ils s'arrêtent au bord de la Vistule, laissant les Allemands détruire Varsovie lors de l'insurrection de Varsovie.
De l'opération Barberousse à l'opération Bagration. C'était pour débuter notre émission du jour. C'est une autre histoire. On partira au Mexique, tout à l'heure, pour parler de cette triste guerre civile, la guerre des Cristeros. Mais avant cela, quelque chose qu'on peut vraiment mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, le prix de nos denrées qui ne cesse de grimper. On appelle ça l'inflation. Ah bon, on va revenir à l'hyperinflation allemande, terrible épisode de notre histoire qui va nous ramener en 1923. C'est dans quelques instants avec Alain-Jacques Tornard, l'historien de Radio Fribourg. Restez bien avec nous.
C'est une autre histoire.
Les prix de l'essence et du gaz ne sont pas les seuls à grimper. Les ressources alimentaires, elles aussi, sont victimes actuellement de la flambée des prix. La cause, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Or, ce n'est de loin pas la première fois qu'un conflit armé provoque ce qu'on appelle une hyperinflation. Notre leçon d'histoire du jour nous ramène en 1923, Alain-Jacques Tornard, avec l'occupation d'une partie de l'Allemagne par l'armée française.
Oui, alors, vous savez, en préparant cette séquence, Mike, j'ai frémi. frémi. Vraiment, j'ai frémi parce que je me disais, comparaison n'est pas raison, comme on dit. Et pourtant, là, je me dis qu'il y a tous les ingrédients pour quelque chose d'absolument dramatique. Cette inflation allemande de 1923, eh bien, elle ressemble à celle que nous sommes en train de connaître actuellement. Alors, regardons les choses un petit peu comment ça se passe. Durant la Grande Guerre, le gouvernement allemand a massivement émis de la monnaie pour financer la guerre.
Ouais, fait tourner la planche à billets, comme on dit.
Voilà, exactement. Vous remarquerez qu'on l'a fait aussi pendant le Covid. Hein. Mmh. Je fais un petit parallèle directement. Pour financer la guerre, soit par l'émission d'obligations, soit par la création du mark papier à la place du mark or. Hein, c'était la fin de l'étalon or. Une fois sorti des poches de l'État, tout cet afflux de liquidités est allé directement dormir sur les comptes des Allemands. Parce que, finalement, la guerre, qu'est-ce qu'on fait pendant la guerre? On consomme pas, on épargne en prévision. Ainsi, l'inflation reste faible durant la guerre, ce qui encourage aussi de faire encore marcher la planche à billets, puisqu'artificiellement, cela est contenu. Et donc, ce n'est que 8 ans plus tard, après la fin du conflit, que cette monnaie, qu'on appelle des fois la monnaie magique, hein, imprimée durant la guerre, inonde l'économie allemande. Le réveil de l'argent dormant a provoqué une forte pression sur la demande qui entraîne l'hyperinflation. Problème, c'est qu'on n'a pas de quoi satisfaire la demande. Parce que il y a les réparations, hein, les Français occupent la Ruhr, par exemple, et on a donc on doit payer beaucoup de choses, et donc l'économie allemande reste fragile, incapable de suivre la demande. Nous avons donc d'un côté une demande à la hausse soutenue par le réveil d'épargne dormante, et en face une offre limitée due à une longue récession de l'économie, puis en fait un sous-investissement des moyens de production. Ça conduit ce qu'on appelle l'hyperinflation, ce qui fait qu'au résultat en 1923, il faut plus d'un milliard pour faire un mark.
Voilà, il faut dire que pendant quelques jours, on a le prix de toutes les denrées qui double tous les jours. Hein.
Tous les jours. Ouais. Oui, on se moque des fois de la situation, par exemple, qu'ont connu les Argentins ou d'autres pays où il y avait une inflation de quelques jours en quelques jours. Mais le problème, c'est que notre situation actuelle, en toute proportion gardée, bien entendu, il ressemble un petit peu, cela fait 10 ans que la Banque européenne, la Fed inonde l'économie d'un argent aussi, comme ça, un peu miraculeux. Pourtant, comme avec l'Allemagne, cette inondation de liquidités a été absorbée par l'épargne qui a limité l'inflation ces dernières années, avec le Covid aussi. Cela a donné, par exemple, des généreux chèques versés par Trump, par Biden, mais pour stimuler la consommation, mais cet argent est allé en fait, investi en actions, en Bitcoin, par exemple, en assurance. Aussi, la reprise économique post-Covid a été l'étincelle qui a mis le feu à l'inflation. D'un coup, les énormes capitaux dormants inondent le marché et créent une pression sur la demande. C'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. En soi, une économie saine peut y répondre en augmentant l'offre, tout simplement. Oui, mais le problème, c'est que nous-mêmes, on est très partagés. Les Occidentaux ne veulent pas relancer une économie à tout va. On est soucieux du réchauffement, à juste titre d'ailleurs, du réchauffement climatique.
Il y a ça exemple. Aussi comme problème. Hein.
Voilà. Le problème, c'est que par exemple, on veut pas de nouvelles centrales nucléaires, mais les centrales nucléaires, ça remplace pas un panneau solaire. Hein. Plutôt, c'est l'inverse. Et au final, on se retrouve à importer du gaz de schiste, très polluant, pour liquéfier, c'est aussi très polluant, pour le transporter en bateau.
Les Allemands se sont remis au charbon, par
exemple. Exactement. Le problème, c'est que l'écologie, de fait, a aussi permis de raréfier les énergies fossiles et ce qui sont nécessaires pour relancer l'économie. L'État tend s'endette toujours plus pour stimuler la consommation en espérant qu'à son tour celle-ci stimule la croissance, mais qui est empêchée justement par le manque de...
C'est le serpent qui se mord la queue. Hein.
Exactement, à ce petit jeu on obtient uniquement un gain de consommation, mais surtout soutenu par un endettement toujours croissant de l'État. Ça vous a pas échappé pendant le Covid. Hein, on a grassé gratis, on a donné beaucoup d'argent, tout ça à un moment donné doit se payer. Ça peut pas durer éternellement. En tout cas, le PIB se retrouve au sommet d'une montagne de dettes, éloigné de la vraie production des différents pays. Raison pour laquelle nous sommes dans une situation en fait un peu semblable à celle de l'Allemagne des années 20. L'utilisation de la planche à billets a créé une montagne de dettes étatiques d'un côté, de l'épargne qui s'endort de notre côté, le tout sur une économie fragile, ne pouvant suivre la demande malgré malgré les caches-misères qu'on envoie un peu partout. La situation donc est assez dramatique, et généralement quand on veut s'en sortir, là curieusement la guerre était avant cette crise économique, là elle nous semble arriver devant, parce que souvent pour régler ce genre d'endettement vraiment absolument calamiteux, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on fait la guerre, parce que ça enrichit certains, ça élude de beaucoup de problèmes, et voilà, ça nous amène tout droit vers une catastrophe. C'est la raison pour laquelle je vous disais que bah, finalement quand je préparais cette émission, je pensais vous parler simplement d'une hyperinflation qui ressemblait à celle qu'on avait connue il y a un siècle d'ailleurs, pratiquement
à un an près.
Et peut-être que pour 2023, de mauvaises surprises peuvent nous attendre si nous ne nous en sortons pas sur le plan économique.
Vous verriez faire nos courses comme à l'époque, avec une brouette pleine de billets, ou de cartes de crédit, vu qu'on a changé.
Peut-être pas, mais pour l'éviter, vous voyez que l'Union européenne, les Américains, on dirait qu'ils cherchent un conflit.
Ouais. Voilà, c'était notre volet sur l'hyperinflation. Comme quoi, c'est toujours très intéressant de connaître son histoire pour comprendre le présent et tenter, tant bien que mal, même si c'est pas toujours facile, de mieux appréhender l'avenir. On va revenir en 22 juin 1929 avec la fin de cette terrible guerre des Cristeros. Nous serons au Mexique. Comment cette guerre s'est-elle terminée ? Eh bien, quelque part, grâce à l'intervention du Vatican. On en parle tout de suite avec Alain-Jacques Tornard. Restez bien avec nous.
C'est une autre histoire.
Le 22 juin 1929 s'achevait la guerre des Cristeros. Cette guerre civile mexicaine avait débuté 3 ans plus tôt suite à l'application d'une constitution vigoureusement anticléricale. Parmi les mesures les plus décriées dans les campagnes catholiques, la nationalisation des terres appartenant à l'Église, la sécularisation de l'enseignement, l'interdiction des ordres monastiques et l'interdiction de l'exercice du culte en dehors des églises. En clair, un prêtre qui portait l'habit dans la rue était soumis à une forte amende. Ce n'est pas pire dans certains cas. Et si cette sanglante guerre des Cristeros, car elle a été sanglante, si cette guerre s'est achevée au bout de 3 ans à la Jacques Tornard, c'est une page méconnue de l'histoire. Elle s'est achevée quelque part grâce à l'intervention du Vatican.
Et oui, le 22 juin 1929, arreglos, comme on dit, un arrangement en espagnol entre le Saint-Siège et un gouvernement socialiste teinté de franc-maçonnerie dont l'intolérance supposée, en fait réelle, avait entraîné les paysans à la révolte. Le représentant du pape demande aux paysans de déposer les armes sous peine d'excommunication, c'est étonnant d'ailleurs. Abandonnés, les ex-rebelles vont subir pendant plusieurs années encore les exactions de l'armée, surtout ça. Alors venons un petit peu en arrière, c'est une sorte de Vendée, vous savez, pendant la guerre de la Révolution, il y a eu une Vendée, et bien là c'est une sorte de Vendée mexicaine, très peu connue d'ailleurs. C'est assez surprenant de voir qu'on a totalement occulté cet épisode. On n'aime pas rappeler quand l'Église a été très malmenée. Tout commence avec l'élection à la présidence de la République en 1924 du général Plutarco Calles. Celui-ci consolide les acquis sociaux de la Révolution de 1910. Vous vous souvenez, les exploits de Zapata, Pancho Villa. Il réorganise l'instruction publique, étend la réforme agraire, nationalise l'industrie du pétrole, d'ailleurs aux grandes dames des États-Unis, qui ne vont pas être tout à fait claires non plus là, à nouveau dans cette histoire-là. Et fidèle à une tradition anticléricale de près d'un siècle, et il a aussi la bonne ou la mauvaise idée de s'en prendre à l'Église, qui détient énormément de pouvoir, il faut bien le reconnaître.
Et d'argent,
et qui est donc un obstacle à l'époque, en tout cas entrevu comme un obstacle au progrès. Et en effet, il prive les droits civiques, les prêtres, par exemple, le 1er décembre 1924, sous prétexte qu'ils obéissent à un souverain étranger, le pape. Il expulse tous les ecclésiastiques étrangers et interdit aux prêtres toute critique du gouvernement en vertu de l'article 130 d'une constitution faite en 1917 et puis dont l'article n'avait jamais été appliqué en fait. Il ferme les congrégations enseignantes, pas moins de 20 000 églises aussi au passage, c'est quand même énorme. Alors bien sûr que l'épiscopat se rebiffe et suspend le 31 juillet 1926 l'administration des sacrements dans tout le pays.
Une résistance passive qui s'organise au départ.
une durée de 3 ans. Mais bon, les masses rurales, majoritairement indiennes ou métisses, qui sont très attachées aux traditions religieuses, d'ailleurs matinées un peu de culture ancestrale, hein, c'est donc c'est bien enraciné, eh bien, ils se soulèvent, et frappant avec le rassemblement. C'est frappant comme ça ressemble aux Vendéens, parce que les expressions sont les mêmes. Vive le Christ roi, vive la Vierge de Guadeloupe. Alors là, pour les Français, c'était pas Guadeloupe. Et donc, par dérision, d'ailleurs, ils sont surnommés Christeros. Et eux-mêmes, d'ailleurs, se qualifient leur mouvement de Christiada, Christiade, tout simplement. Ils sont désavoués par l'épiscopat, à 2-3 exceptions près, parce que l'épiscopat tient quand même à maintenir quand même son pouvoir, et puis il voit bien que là, ça va être un prétexte pour l'amoindrir encore plus. 50 000 combattants, quand même, hein, là, c'est la plus importante rébellion qu'ait connue le pays. Il y avait 20 millions d'habitants à l'époque, hein, au Mexique. Et donc, les Cristeros tiennent d'ailleurs les 3/4 de l'ouest du Mexique, hein, et la moitié des 30 États de la Fédération. C'est quand même pas rien. Et c'est ces escarmouches, ce qu'on peut appeler ça ainsi, guérilla, s'entraînent 90 000 tués quand même. Hein,
ça donne une guerre sanglante.
Dont les 2/3 parmi les troupes gouvernementales. Hein, voilà. Et donc, le président hausse finalement se réconcilie avec les États-Unis et fait des concessions sur le pétrole, d'ailleurs, en échange de l'aide de l'US Air Force dans son combat contre les Cristeros. C'est les Américains, vous avez pourtant tellement chrétiens, mais qui vont aider à réduire. Et ensuite, le Saint-Siège.
Ouais. C'est là qu'on voit que le pétrole est plus important que la foi. Hein.
Exactement. Ne dites pas ça, Mike, c'est pas bien. Il en vient à faire appel au Saint-Siège, d'ailleurs, le président mexicain, et le Saint-Siège, en témoignage de sa bonne volonté, il autorise à nouveau le culte catholique le 3 mars 1929. Il fait rouvrir la cathédrale de Mexico.
Les cloches recommencent à sonner.
Voilà, exactement.
Elle s'est tue pendant 3 ans.
Exactement. Et c'est le même secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, celui-là même qui avait signé les accords du Latran avec Mussolini, qui va s'occuper d'aplanir le tout. Et on fait donc cet accord. Mais s'il s'ensuit, cet accord ne va pas du tout être finalement appliqué. Et l'armée va être d'une cruauté inouïe. On va assassiner énormément d'anciens rebelles. Et une nouvelle guerre va commencer. Elle va durer de 1934 à 1938. D'ailleurs, on ne s'est jamais intéressé de savoir combien de morts ça avait fait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il faudra encore plusieurs années avant que la paix religieuse ne revienne au Mexique. Et en fait, cela va entraîner une conséquence en Europe, c'est-à-dire la disgrâce du cardinal Gaspari, qui sera remplacé à la secrétaire d'État, donc le ministère des Affaires étrangères du Vatican, par le cardinal Eugenio Pacelli.
Ah oui, le fameux P12.
Hein. Et qui deviendra P12 au moment du déclenchement de la guerre. Et vous savez que ce personnage est assez controversé par l'histoire. Je rappelle qu'il y a eu un film quand même qui est Cristeros, du réalisateur Dean White, qui a donné une certaine visibilité à cet événement en 2012.
Ouais, c'est vrai qu'on... Voilà, ça fait partie des pans méconnus de l'histoire. Et puis surtout, l'intervention du Vatican, c'est pas forcément mentionné dans tous les livres d'histoire, raison pour laquelle la leçon d'histoire d'Alain Jacques Tornard nous est précieuse, comme chaque semaine sur
Radio Fribourg. Tout n'est pas dans Wikipédia.
C'est vrai. Non, c'est une petite pique, là, hein, moi qui vais très souvent sur Wikipédia pour préparer cette émission. Je dis pas toujours des bêtises quand je vous lance,
rassurez-moi. Ah non, pas du tout, dans Wikipédia. Bon, je rassure tout le monde. Wikipédia dit des choses très justes, mais parfois, il s'appuie sur des documents officiels qui fait que des pans entiers de l'histoire sont occultés.
En l'occurrence, c'est ça la richesse de cette émission avec Alain Jacques Tornard. On n'est pas toujours dans l'officiel. Hein.
Oui, oui. Ouais. En l'occurrence, je m'appuie sur une thèse de l'historien français Jean Meyer en 1964 qui avait publié une thèse précisément là, sur ce sujet.
Et s'il y a une page internet que vous recommandez pour les amateurs d'histoire, c'est Hérodote.net.
Tout à fait.
Très complet.
Je m'appuie souvent d'ailleurs sur cette page en agrémentant d'autres sources naturellement parce qu'ils sont extrêmement honnêtes.
Une autre leçon d'histoire la semaine prochaine, Alain Jacques Tornard.
Je me réjouis déjà.
Voilà, passez une belle journée. Portez-vous bien d'ici là à 9h. C'est le retour de l'actualité sur Radio Fribourg.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allô ?
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Je suis Uli Steinbeck. Vous êtes monsieur Claude Michael de Mike.
Oui, bonjour.
Bonjour. Écoutez, je vous téléphone pour faire une proposition.
Oui.
Je travaille pour la maison de chocolat Mm-hmm. On recherche une personne pour faire la publicité pour l'année prochaine pour les lapins de Pâques avec la spéciale cloche de Pâques.
Ah bon? Ouais.
Parce que en fait, on va faire toute une thématique sur les cloches. Et on m'a dit, Monsieur Claude Michael, lui, il fait de la radio. C'est une personne qu'on connaît sur la Suisse romande. On a déjà Mathias Sembach qui s'occupe de la campagne sur la Suisse alémanique. Et on aimerait trouver une personne qui peut faire la publicité pour la partie suisse romande.
D'accord, ouais.
Et vu que vous êtes déjà un personnage public, plus vous êtes passionné par tout le monde des cloches, et on a dit, mais c'est la personne qu'il nous faut.
Ouais, je suis un peu étonné, mais oui, pourquoi pas.
Ben écoutez, oui, parce que nous avons Mélanie Vinegar qui s'est peut-être aussi intéressée, et on a dit, alors pourquoi pas Monsieur Claude Michael qui est une personne qui est publique et qui peut faire de la publicité avec nous pour le Pâques l'année prochaine pour le spécial cloche.
Mmh, bon, un peu moins connu quand même que Mélanie Vinegar, mais bon.
Non, mais vous savez, hein.
Dans la région de Fribourg, par Radio Fribourg, mais pas tellement plus loin dans la Suisse romande, que vous le sachiez quand même.
Ah, parce que nous, on ne connaît pas très bien, hein. Nous, on a les personnes pour la Suisse alémanique, mais finalement. Parce qu'on a dit, il y a un monsieur, c'est Quasimodo, c'est ça, hein.
Oui, ça c'est mon pseudo effectivement pour le Facebook pour le site internet.
Est-ce Alors est-ce que vous êtes Mike ou vous êtes Quasimodo?
Alors moi c'est moi c'est Mike à la radio et puis c'est Quasimodo pour les cloches en gros, on va dire c'est ça.
D'accord, alors pour nous c'est les cloches qui est intéressant. Donc c'est Quasimodo. Voilà, ouais. C'est très bien.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous êtes intéressé pour faire un peu la publicité pour l'année prochaine? On prend l'avance parce que nous, on prépare déjà la campagne. Hein.
Mais c'est quoi? C'est de l'affichage? C'est de la télé?
Alors, il s'agit de faire des photos et puis des vidéos pour une publicité qui est sur la télévision et il y aura aussi dans les journaux.
D'accord.
Et on veut que vous soyez sur la photo avec les cloches.
D'accord, ouais.
Alors, est-ce que pour vous, c'est possible?
Bah, écoutez, il faudrait qu'on se rencontre pour en discuter, ça me paraît...
D'accord, mais...
Ça me paraît judicieux, hein.
Est-ce que ça vous être un problème si vous enlevez les habits pour la publicité? Parce que le thématique, c'est...
J'ai quand même l'impression que c'est un peu une blague que vous êtes en train de me faire, là, je vais pas avoir l'air, mais...
Absolument pas. Parce qu'il y a déjà, vous n'avez pas vu l'année passée, nous avons Mélanie Vinegar et elle avait juste le petit lapin.
Ah ouais, non, mais le truc d'enlever les habits quand même, ça me paraît un peu gros, monsieur.
Ah non, non, alors, vous savez,
C'est des collègues qui sont autour de moi qui sont en train de bien rigoler aussi. Hein.
Je vous invite à aller regarder les publicités, vous allez tout de suite comprendre.
Pourquoi pas, ouais, bah si vous m'envoyez un... Si vous m'envoyez un lien par email, je vais vous envoyer.
Vous allez voir qu'en fait, nous avons juste une personne avec un objet chocolat et donc devant, en fait, le string. Et on fait la publicité. Mmh. Et donc, vous seriez toujours intéressé. Je vais donc vous demander si c'est possible d'envoyer déjà des photos de test que je puisse faire passer ça à l'équipe marketing pour coaching. Alors, écoutez, voilà. je vais vous passer peut-être la personne qui est responsable après de l'organisation avec faire le photo, d'accord?
Ouais, si vous voulez, j'ai pas beaucoup de temps là, malheureusement.
Oui, alors on va faire très vite. Je vais vous passer pour la personne qui va vous expliquer comment se passe le shooting.
D'accord, vous pouvez me la passer, ouais.
Ja, hallo, Frau Gratting. Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?
Ah, nein, nicht sehr gut.
Alors, je parle un petit peu le français, oui, je suis capable de parler un petit peu le français. Alors, monsieur Claude Michael Mevs, vous avez dit à monsieur mon directeur que vous êtes d'accord de faire la campagne publicité pour le Suisse romande avec nous.
Non, je n'ai pas dit que j'étais d'accord, je voulais avoir des renseignements. Parce que ça ressemble beaucoup un petit peu à une blague, là, ce que vous êtes en train de me dire.
Mais quel renseignement est-ce qu'il vous manque?
Connaître un petit peu le pourquoi du comment, etc. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait... Pardon, je suis en train de manger, là.
Il faut manger du chocolat.
Non, c'est pas du chocolat, c'est de la salade en ce moment. Le chocolat, ça sera pour le dessert.
Ah. Vous, est-ce que vous aimez le chocolat, monsieur Meps?
Oh, moi, j'aime beaucoup le chocolat, bien sûr. Hein.
On pourrait vous envoyer un petit paquet, alors, pour vous montrer une sélection de ce que nous faisons dans nos produits.
Avec grand plaisir. On verra si votre chocolat est meilleur que le chocolat que nous avons à Fribourg, le Cahier et puis le Villard.
Vous faites bien la publicité, hein, pour le chocolat.
Ah, ouais, ouais. Si vous me le voyez et puis que c'est bon, ben, je m'en régalerai avec grand plaisir.
Parfait. Alors, je vous envoie une petite sélection des échantillons pour goûter. Et de toute façon, on va vous rappeler parce que pour les prestations ou prétention salariale.
Ouais. Bon, je vous dis honnêtement que votre combine, ça m'a l'air d'être une grosse blague, mais bon, pour plusieurs raisons, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Hein.
Ouais, vous avez raison, ouais, c'est un peu dit, bizarre.
C'est
hein.
N'importe quoi, faut dire une fois.
Oh, c'est magnifique.
Voilà, mais c'est.
Je vous ai même pas reconnu au départ. Hein.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, messieurs. Vos bijoux de famille seront désormais protégés des ondes GSM grâce aux boxers de la marque RadiaShield.
Et ça, moi je dis, c'est important parce qu'on sait depuis une étude que les ondes émises par les GSM rendent les spermatozoïdes moins mobiles et moins vifs. Ouais, alors un spermato pas vif, il prend son temps pour aller ovuler tranquillement. Et qu'est-ce que ça donne?
Il se fait dépasser par les autres.
Il se fait dépasser.
Clairement.
Voilà, c'est voilà. Ça. Et puis il y a moins de performance et donc forcément, ça ne va pas.
Donc le slip promet en fait de protéger votre pénis et tous les attributs des ondes radio et GSM. Il est composé d'un tissu blindé au fil d'argent spécialement conçu pour la protection. Alors
des bijoux de famille dans de l'argent, ça c'est la classe.
C'est quelque chose.
Ah
ouais. Alors l'histoire ne dit pas si c'est agréable ou pas, mais ça a l'air en tout cas, parce que sur les photos, ça a l'air d'être un slip normal, seulement c'est des fils d'argent, rendez-vous compte.
Pas particulièrement beau non plus, un tue-l'amour, mais bon.
Ou alors vous vous achetez une besace ou quelque chose pour mettre votre téléphone ailleurs que dans votre poche, parce qu'il faut quand même y penser, hein, messieurs.
Je ferai une boutique fribourgeoise, j'en commanderai une petite dizaine aux États-Unis, et puis je mettrai ça en vente dans ma boutique en disant que j'ai l'exclusivité à Fribourg. Moi je dis ça, je dis rien.
Toi, t'es vraiment le gars qui livre ses bons tuyaux comme
ça. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis Mister Tuyau.
Si vous avez besoin de brainstormer avec un talent, un cerveau comme ça qui bouillonne, vous appelez Rio et vous donne tous les bons conseils pour votre entreprise.
C'est Rio les bons tuyaux.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux. La Baltie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Hey, tu machine à Janine, t'es cool, salut.
Hey Bernard, t'es cool, ciao.
Yeah, ça va bien?
Ouais, ça va. Dis donc, j'ai appris un truc.
Hein?
Pareil qu'il y a la fête de la Baltie.
Oh, ça c'est la grande fête, chaque année, mais alors...
C'est une...
Une bringuille.
Mais
une bringuille.
C'est génial.
Et pareil qu'il y a l'orchestre machin, là...
Comment déjà, attends voir, Tokyo Hotel ou bien?
Non, pas Tokyo Hotel.
Mais oui, Douche de Monsoon, là, non, c'est eux, non?
Cocktail.
Ah, ouais,
non, ça c'est autre
cocktail,
chose.
Ouais,
et
ouais.
Ça, ils sont bons, cette équipe, hein?
Ils sont bons.
C'est des sacrés musiciens, hein?
Allez,
bon,
cueille
moteur, on doit loin. Ouais.
Dis donc, Bernard!
Veste populace!
Mais il y a du monde!
On va se boire un petit glaise là!
Écoute bien, on va au bar!
Oui, oui! Bon, qu'est-ce qu'on prend, bien?
Moi, je prends une bière!
Oh, bah allez, deux bières!
Allez!
Deux bières, bien!
Dis donc!
Hein?
Bernard! T'as vu qu'il y a là-bas ou bien?
Nom de gueule, la 37!
Mais oui!
C'est
Martha de la Neuville!
La Martha, celle qui avait voulu foutre, elle s'était foutue à poil dans la fontaine, elle avait.
Miss Boltzir!
Mais oui, elle avait été destituée de son titre de Miss Boltzir!
Mais
quel bedoum!
Puis regarde voir comme elle bouge là, non mais.
Ah ouais, toujours autant que 37, hein!
Aïe,
puis t'as vu, il y a Boubi là-bas!
Hey, Boubi!
Salut Boubi!
Salut Boubi! Dis donc, il a chopé un sacré beau. gros U, hein,
Boubier. Non, tu veux, faut dire que Boubier, c'est un sac à bière.
Non, mais t'as vu ce bled ou
quoi? Il a un dessin.
Quel beau
c'est lieu. Les chutes du Niagara.
C'est terrible. Dis donc, Bernard.
Ouais.
Home vegan gatance.
Ouais, ouais. Moi, je suis tout vigoute. Allez, moteur maintenant.
On y va.
Et n'importe quoi.
Moi, j'adore.
Et j'adore cette musique.
Ça m'appelle tes souvenirs.
Et c'est bon. Les cocktails, ils sont excellents.
Et ça, alors, c'est super. Orchestre cocktail.
Ça, on sent que. Moi, je vais voir si je peux trouver le CD.
Ouais, moi aussi, j'en ai rien. Comme ça, on pourrait danser à la maison.
Et ouais.
Tout rose. Bon, tout. Je suis raide.
Quoi?
Non, je suis ganz crapoute, toi.
Non, mais
non,
maman.
Écoute, moi, je vais me reposer. Je vais prendre encore un petit glaiselé, hein.
Non, moi, je suis encore tout vigoureux. J'ai encore envie de danser. Moi, ils m'ont mis une de ces ambiances. Moi, je trouve que c'est génial.
Écoute, Iranum, je te laisse continuer à danser. Moi, je vais au bar. Iranum.
Bon, ben, je vais danser. Nom de Dieu. Ça tombe bien, notre gueule. C'est la série des slow qui commence. Et me regarde voir qui a la Roseline.
Bernard.
Adieu. Monsieur Roselyne, ça fait un moment qu'on s'était pas revu, non, que des années!
En tout cas,
des années, mes titans! T'as toujours pas arrangé tes tsan depuis la kinkly choule!
Hein?
Ben ouais, t'as pas tellement arrangé tes chagnouettes depuis les couilles!
Ah non, ça c'est pas Roger, non?
Et ça te dit venir danser un petit slow avec moi, là, ou là? Comme à l'époque, et tu te souviens, on avait été schmousés à la patinoire d'Augustin, hein?
Ah, mais ça m'a rappelé des bons souvenirs.
Allez, viens, madame. Viens, on va se faire un petit slove.
Mais tu te rappelles, c'est notre chanson?
Eh ouais.
Tu te rappelles que je t'avais déboutonné le pintet sur cette chanson?
Eh non, t'es que ouais.
Et après, on avait été schmousés dans un coin.
On avait pris une petite maillée ce soir-là. On est un peu mariatons, hein?
Ouais, ouais, on était bien amoureux.
En tout cas, ça rappelle des sacrés souvenirs.
Hein. Oh, tu peux y aller.
Eh non, c'est...
Dis donc, Bernard! Gaite ta sonneur! Je te dérange pas trop bien!
Oh, ben écoute, là, c'était bonheur, hein?
Non, mais dis donc, tu te fous de ma poire? Tu te fous de ma poire ou bien tu la pèdes non-stop, tu la colles non-stop?
Mais quand même, hein, maman, toi, tu
Bernard.
Pousses! Tu pousses,
Bernard,
là!
Bernard, hein. Rouviette!
Non, mais s'il te plaît, ou bien.
Je t'ai
maman.
Vu, hein!
Non, mais franchement, c'est pas parce que j'ai revu une copine de l'école de la Kinkley School
hey.
Qui a les dents complètement en vrac qu'il faut en faire un bal, pas possible,
non,
ou bien.
Mais tu crois que je vois pas comme tu la gugues?
Mais s'il te plaît, maman!
Mais faut pas
ou bien.
Prendre une toquelette, hein!
Mais franchement!
Bon, hein! Dis donc, Bernard! Maintenant, tu rouvres tout de suite.
Mais
ça fait des heures que je t'attends au bar avec ta moonsoon dans la main. Hein.
Franchement, alors là, tu commences sérieusement à me chauffer avec ta gueule de 3 km de long, là, hein?
T'es con, tu restes poli, Bernard, hein? Tu
ouais,
parles pas sur ce ton, hein?
Ouais, bah si c'est pour tirer une gueule pareille, franchement, t'as pas besoin de venir, hein?
Ben, tu vois ce que j'en fais de ta moonsoon? Tiens!
Oh non, tu gueules, mais t'es con, bien! T'es combien cinglé? Je suis fin 30, maintenant, Ibinas!
Et applaudissez bien fort l'orchestre Cocktail, qui est venu spécialement pour nous! Et je vous avais promis en début de soirée une super surprise! Et voici l'heure de l'arrivée de Tokyo Hotel!
Ouais, ouais, pour finir fin 30. Avec maman qui fait une gueule de 3 km de long. Merci les soirées douches de Moonsoon.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre étude du jour. On va parler d'amour aujourd'hui et surtout cette grande question existentielle. Combien de fois est-ce qu'on peut tomber amoureux dans sa vie? Fallait bien qu'on se penche sur le sujet quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y a un nombre limité de fois où on tombe vraiment amoureux. Le big love quand même. Hein. 3000 adultes ont été analysés. Et chaque relation amoureuse aurait une utilité pour nous permettre d'avancer vers la relation. Les scientifiques ont donc conclu qu'un individu se met en couple 5 fois au cours de sa vie. Mais, ah oui, on ne tomberait réellement amoureux que 3 fois. Et ces 3 fois ne seraient pas les mêmes. Eh oui, il y a différents stades amoureux. Donc 3 fois sur 5, d'accord, déjà. Le premier amour, l'idéaliste. Hein. Ah oui, les petits papillons, mais bon, on ne comprend pas ce qui nous arrive. cette relation pure et parfaite qui fait bam dès qu'on arrive devant les dures réalités de la vie quotidienne ou de la vie d'adulte. Alors le deuxième amour, c'est le plus destructeur, hein, celui qui arrive par nécessité quand le cœur est meurtri. Eh ouais, le comblage de vide. Le troisième amour, c'est celui qui dure. Alors ouais, les deux premières expériences n'ont pas été vaines. C'est pour trouver un point d'équilibre et de sérénité. Une fois à ce stade, bah, les personnes sont prêtes à aimer pour longtemps. Et voilà, c'est comme ça qu'on trouve le troisième et meilleur amour. Maintenant, c'est pas toujours gagné, c'est comme ça, c'est la vie. Hein.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Et partout dans le monde, sur www.radiofr.ch. Tous les jeudis soirs, le club de Rio et Tania.
Avec Taxi Denis, le taxi de Lintiamont à Ennet, www.taxidenis.ch.
Et bienvenue tout le monde. Bienvenue
bonsoir
Tania.
Tout le monde.
Bonsoir, j'étais Tania. Bonsoir, Idé. Aujourd'hui, c'est une poulie tout petit. Ça va être super, les amis.
Bonsoir tout le monde. Oui. On espère que vous allez bien. Mm-hmm. Oui, ça va bien.
17 et 17 divisé par 6 moins
6. Dis donc, mon vieux. Tu pourrais me rendre un petit service.
Débordé. Je suis débordé. Je n'ai pas le temps de faire la conversation. Il faut que je traîne ce sycomore jusqu'au
mât. Ah bah dis donc, ça change de format, hein, cette radio.
Mais c'est gigantesque.
Oui, Tania, je vois que vous magouillez des choses.
Moi ? Mais non. Je voulais un petit peu vous dire le programme de ce soir, mais j'ai un ami qui le fait beaucoup mieux que moi.
On vous prépare du croco.